Notre thème sera ce matin la vérité. Il est difficile de comprendre un autre être humain. Comment est-ce que je peux être sûr de comprendre Dieu? Mais pourtant, en tant que chrétien, on pense tout de suite à deux choses quand on parle de vérité. On pense que la vérité est unique, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, et que c'est non négociable. Et puis on pense aussi que ce verset phare, je dirais, ce que nous a dit Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Mais avec ce qu'on vient de dire, on peut comprendre que la majorité des hommes, éventuellement en Occident en tout cas, pensent que la vérité n'existe pas. Alors comment on peut faire pour apporter la foi chrétienne dans un monde qui pense que la vérité n'existe pas? C'est pas évident. Il est important de pouvoir comprendre comment on peut rendre compte de notre foi à qui nous le demande, puisque c'est ça qui nous est demandé. Et donc il faut pour ça commencer à comprendre les personnes à qui nous allons parler. Par exemple, Paul s'est promené dans Athènes, et puis il a essayé d'abord, avant de s'adresser aux personnes à Athènes, il a essayé de comprendre la culture grecque. Il a essayé de comprendre ce qu'il voyait. Il a repéré un dieu qui n'existait pas. Il s'est basé là-dessus pour faire son discours. Enfin, un dieu inconnu. Et qui n'existait pas non plus, mais bon. Avant de s'adresser aux habitants de la ville. Il a ensuite inclus, donc, tout ce qu'il a vu et compris dans ce qu'il leur a dit. Donc, qu'est-ce que disent les hommes, maintenant, par rapport, à la vérité? Qu'en pensent les hommes? C'est notre troisième partie. Donc par rapport à la vérité. Donc là, on va passer en revue des choses qui sont un peu pénibles pour un chrétien. C'est la manière dont les hommes perçoivent la vérité, dont les philosophes ont perçu la vérité. Moi, je ne pense pas être un grand philosophe, mais la phrase que j'avais dans ma tête et que je prenais comme devise quand j'étais avant de devenir chrétien. C'était « tout est relatif », et je suis pas le seul à penser ça. C'est une position très agréable, parce que si tout est relatif, il n'y a pas grand-chose à se reprocher, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Mais évidemment, « tout est relatif », c'est une phrase qui en elle-même est impossible, n'est-ce pas? Si tout est relatif, la phrase elle-même est relative, donc elle veut plus rien dire. Donc ma devise était une impasse, une « on » cette réflexion. Autre phrase assez répandue, aucune vérité n'est absolue. C'est encore une phrase bien pratique. Aucune vérité n'est absolue. Et donc des grands scientifiques ont fait remarquer, en particulier un monsieur Alan Sokal, qui est un professeur de physique et membre du corps professoral du département de mathématiques de l'université de New York. Ouais, hein, c'est quand même. Donc il a fait remarquer que c'est une phrase trivialement autocontradictoire. Retenez-le, hein, trivialement autocontradictoire, quand même, ça en jette. Ouais. Si la proposition est admise comme vraie, si on dit qu'une vérité n'est absolue, alors elle doit s'appliquer à elle-même, et donc elle est fausse. D'accord. Un petit aparté sur ce monsieur, c'est un monsieur qui, en 1995, a publié un article dans une revue très respectée, un article qui s'intitulait... Il n'y aura pas d'interro. Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique. Je répéterai pas. Son auteur donc étayait donc ses divagations, parce qu'il divaguait là-dedans, par des citations d'intellectuels célèbres français et autres. Et ensuite, il a révélé que son article, qui avait été publié, donc qui avait été relu et publié dans une revue scientifique. Donc c'était une boutade, c'était une parodie. Et son but était donc d'attaquer par la satire ceux qui utilisaient la terminologie scientifique pour donner une apparence de vérité à des choses qui n'en avaient pas. Donc ça fait du bien que des personnes se rendent compte de ce genre de choses. Alors, on parle de relativité, on parle de relativisme. J'ai dit tout à l'heure, tout est relatif. Beaucoup pensent ça. Alors, la science du XXe siècle a semblé nous y encourager avec la relativité d'Einstein. Mais méfiez-vous, parce que en simplifiant l'extrême, donc la relativité, ça veut dire qu'ils peuvent être déformés. Mais pour être juste, il faut savoir que la relativité d'Einstein n'a rien à voir avec le fait de dire tout est relatif. D'accord? Si jamais vous en parlez avec des gens qui connaissent, ils vont vous tacler si vous dites ça. Donc, au contraire, en fait, ça s'attache à montrer l'existence d'invariants. L'existence de la vitesse de la lumière est invariable dans le vide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a une vitesse. Et donc, c'est ça qui fait que la vitesse devient relative par l'observation. Mais donc, oubliez Einstein quand vous parlez de relativisme, de tout est relatif. Ça n'a rien à voir avec la théorie d'Einstein dans la partie philosophique des choses. L'important, c'est quand même que ces positions intellectuelles qui disent tout est relatif au sens il n'y a pas de vérité tendent à dire donc que la notion de vérité n'existe pas. Et comme c'est ce dont on parle, on va prouver qu'elle existe. Chacun sa vérité, ça c'est une autre phrase aussi. Il y a monsieur Jean-Paul Sartre, français bien connu, qui disait que c'est une formule juste. Pourquoi ? Parce que chacun se définit par la vérité vivante qu'il dévoile. Alors ça, ce genre de phrase, ce sont vraiment des mots. Sartre, sans rentrer dans les détails, sa philosophie, c'était que chacun doit définir sa propre vérité, faire sa propre expérience, et que c'est incommunicable c'est incommunicable aux autres. Donc, en fait, il n'y a plus de communication possible, et chacun sa propre vérité, effectivement. Évidemment, cette phrase est toujours aussi fausse, puisque quand on dit ça, chacun sa vérité, on voit bien un peu ce qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, chacun sa manière de vivre, chacun. En fait, ce qu'il veut dire, c'est chacun son opinion, chacun sa manière de vivre. Mais il ne parle pas là de vérité. La vérité, c'est quelque chose d'objectif. La vérité, c'est pas subjectif. Ça ne tient pas compte des opinions. La vérité, c'est universel. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de dire que chacun peut avoir sa vérité. La vérité ne peut être qu'universelle. Devant la vérité, il n'y a rien à défendre. Quand on est devant la vérité, on sait que c'est la vérité. Et là, on va arriver bientôt au fond des choses. Dans les sciences, par exemple, on fait bien la distinction entre une théorie qui reste à prouver, et puis donc ça équivaut à une simple opinion. On cherche à prouver qu'elle est vraie parce qu'on en a l'intuition, mais ça n'est pas considéré comme une vérité. Et une loi ou un théorème qui a plus, donc, qui est prouvé et qui a plus une notion de vérité. Donc ça fonctionne pas, on peut pas soutenir que chacun a sa propre vérité. Il peut y avoir diverses opinions, diverses manières de vivre. On peut manger des aliments différents. Et tout est aussi bon pour les uns ou pour les autres. Ça dépend aussi de la culture, du régime alimentaire. Mais dans toutes les cultures, dans tous les goûts et dans toutes les couleurs, si vous mangez du poison, vous mourrez. Ça, c'est la vérité. La réalité, c'est que chacun peut avoir un régime alimentaire différent. La vérité, c'est que si vous mettez du poison dans n'importe quel régime alimentaire, vous verrez pas le lendemain ou la semaine suivante. De la même manière, sur le plan spirituel, il ne peut y avoir qu'une seule vérité, un seul Dieu véritable. Et s'il est vrai que l'Éternel est Dieu, alors Allah ne l'est pas. Et donc croire en autre chose que l'Éternel, c'est aussi comme un poison, ça mène à la mort spirituelle. On va continuer le petit jeu. On a une phrase qui est très souvent citée, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Cette phrase est très intéressante. Si on poursuit ce raisonnement, le raisonnement à partir de ça, vérité en deçà des Pyrénées et erreur au-delà, alors on peut dire que oui, on peut observer beaucoup de pratiques dans des cultures différentes. On peut même citer des exemples parfaitement chrétiens. Il y a des églises qui prennent la scène en rond, il y a d'autres églises qui prennent la scène en distribuant des petits verres, des églises qui prennent la scène, chacun boit à sa place. Il y en a qui attendent que tout le monde soit servi, etc. Est-ce qu'il y a une vérité là-dedans ? Non, c'est simplement des habitudes. On peut discuter sur ces habitudes, mais on n'a pas l'impression que c'est particulièrement impactant de faire ceci ou cela. Ces habitudes donc sont valables dans un lieu donné. C'est des conventions, c'est différentes manières de faire les choses qui sont acceptées. C'est une norme dans une communauté. Ça se produit tous les jours dans de nombreux domaines. Donc on peut être d'accord que c'est pas bien important, il n'y a pas de vérité absolue qui concerne ce genre de phrase. Mais revenons à la phrase. Est-ce qu'elle a bien été écrite pour justifier l'idée que la vérité est relative? En fait, c'est une phrase qui a été écrite par Blaise Pascal. Et Blaise Pascal, on ne peut pas le soupçonner de ne pas être chrétien. C'est vraiment un chrétien affermi. Plus particulièrement, c'est une phrase qui vient des pensées de Pascal. Et Pascal, c'est un livre qu'il a écrit comme une défense de la religion chrétienne contre les sceptiques et les libres penseurs. Aucune possibilité qu'il ait été partisan d'une vérité relative. En fait, pour lui, la vérité est accessible non pas par la raison, mais par le cœur. Donc là, il parle effectivement d'une vérité qui est plutôt une habitude, une culture. Pour lui, ce n'est pas par le raisonnement, mais par ce qui est domaine de l'âme et de l'esprit qu'on peut découvrir la vérité. J'aimerais beaucoup qu'on puisse l'inviter un dimanche, mais c'est pas lui qu'on va inviter aujourd'hui. Donc vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, c'est assez souvent mal interprété. Et si on lit le passage tout entier, si vous avez la curiosité d'aller regarder dans les pensées, vous verrez que c'est une anomalie que les codes de justice soient différents selon les pays. Et il attribue ça à la raison corrompue, donc à la déchéance, à la chute des hommes. Il dit aussi le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Autrement dit, comme l'a dit auparavant l'apôtre Paul, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. On trouve la justice dont parle Pascal. Voilà. Donc on peut revenir encore loin dans le temps, si vous avez un petit peu des notions. Vous savez que Platon, par exemple, le philosophe grec, avait une idée de la connaissance qui était celle des idées, qui était accessible aussi uniquement par la raison. On retrouve un peu le même raisonnement. Pour lui, on avait un monde réel immédiat, mais accessible au sens, mais faux et source d'erreur. Et le monde des idées, pour lui, était l'important. Et certains disent que le christianisme prolonge les idées de Platon. Saint Augustin, qui a écrit qu'aucun philosophe n'est plus proche du christianisme que Platon, parce qu'il pense que le sage imite, connaît et aime Dieu. Il reconnaît le vrai Dieu pour auteur des êtres, pour source de vérité. Bon, je m'excuse, c'était un petit peu peut-être intellectuel ou philosophique, mais je pense que c'est important qu'on ait des idées comme ça sur ce que les gens ont pu penser, ont pu dire, parce que ça influence énormément l'éducation, d'abord. Les parents, vous allez voir que vos enfants, dans les livres, si vous regardez bien, ils auront ce genre de choses. Et donc c'est important de pouvoir discuter avec les gens si ça nous arrive de discuter sur ce sujet-là. Il y a d'autres manières évidemment de présenter l'évangile. Alors je voudrais maintenant qu'on arrive à la partie de notre invité spécial. On va rester dans le monde de l'Antiquité. On vient de parler de Platon, mais on ne va pas recevoir Platon. Au temps de la grandeur de Rome, on va s'arrêter sur un personnage important qui représente dans sa région le pouvoir le plus important. Il s'agit du préfet d'une province romaine qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation ce matin. Le voici. Voilà. Et nous allons donc pouvoir écouter son récit. Le voilà. Donc je vais l'interviewer. Bonjour monsieur le préfet.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous ont encore jamais vu? Eh bien, vous savez, je suis un personnage romain important et ce qui me concerne est consigné dans Wikipédibus. Vous ne l'appelez plus comme ça, je crois. Et dans de nombreux commentaires et dictionnaires bibliques. Comme vous l'avez dit, je suis préfet et au moment du procès de Jésus, j'étais préfet de Judée pour le compte de l'Empire romain, bien sûr. Merci pour ces précisions. Pour rendre un peu plus vivante l'interview, je vous propose de nous transporter ensemble quelques heures après la condamnation de Jésus. On va se replacer à ce moment où Jésus est condamné et ses accusateurs viennent de l'emmener pour être crucifié. Mon nom, c'est Philippe Sénus. Parce que compagnon, c'est celui qui partage le pain. Donc Sénus, ça va bien avec. Je viens d'assister au procès depuis la foule et j'aimerais bien avoir votre récit, vos impressions sur ce qui vient de se passer. M'accorderez-vous cette interview pour le journal? Mon journal, c'est le journal de mon communauté, Fidem Spem Caritam. Ok. On va devenir un peu plus sérieux. Bien volontiers, cher citoyen Philippe. Je me replonge donc dans cette journée. Je vous avoue qu'elle a été complètement folle. Ça a été une sorte de tornade qui m'a laissé sur les genoux. Et quand je dis sur les genoux, c'est pas forcément que physique, mais on y reviendra sûrement. Parlez-vous un peu de nous ? Parlez-nous un peu de vous. Je m'appelle Pontius Pilate. Depuis combien de temps êtes-vous en poste en Judée ? J'ai pris la succession de Valerius Gratius et j'ai été nommé préfet de Judée par Tibère, l'empereur Tibère, en 26. J'habite à Césarée, à 120 km de Jérusalem. Une chose à signaler, ma femme a été exceptionnellement autorisée à m'accompagner. C'était du jamais vu. Et vous verrez tout à l'heure que ça a une certaine importance dans le récit. Quel est votre rôle ? Quels sont vos pouvoirs ? Eh bien, en tant que préfet d'une province romaine, je suis celui qui a les pouvoirs administratifs et militaires. En ce qui concerne la justice, je détiens l'autorité juridique suprême, c'est-à-dire que les Juifs ont une certaine autonomie en ce qui concerne le droit civil ou le droit pénal. Mais par exemple, en ce qui concerne les condamnations à mort, ça doit passer par mon autorité. Vous étiez donc en poste le jour qui nous intéresse, mais vous m'avez dit que vous habitez Césarée. Pourtant, c'est bien à Jérusalem que ça s'est passé. Oui, selon l'habitude des magistrats romains en Palestine, je me rends à Jérusalem aux époques des fêtes solennelles, en même temps pour faire acte de présence, et puis aussi un peu pour surveiller les mouvements de population. Donc ce jour-là, je me suis rendu à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ah, je comprends. Et donc, que s'est-il passé ? Comment avez-vous été amené à siéger pour ce procès ? C'était pas prévu ? Non, pas prévu. Évidemment, je savais pas qu'on allait juger ce Jésus. Mais à toutes les fêtes, c'était la coutume que le préfet leur relâche un condamné. Et donc, je savais qu'ils allaient venir me réclamer cela. Donc, je m'étais préparé un peu. C'est une bien curieuse idée, si vous voulez mon avis, mais ça permettait d'avoir un peu plus la paix le reste du temps. Donc, j'étais prêt. Et comme je le pensais, les chefs des Juifs, ceux qu'ils appellent les sacrificateurs et les anciens, sont venus me voir au prétoire. Ah oui, le prétoire, l'endroit où vous rendez la justice. Mais dites-moi, moi j'étais dehors et je les ai pas vus rentrer. Non, bien sûr, c'était leur pleine fête de la Pâque et ils ne voulaient pas se souiller, comme ils disent, en entrant. Car dans leur religion, cela les aurait rendus impurs hein, et ils n'auraient pas pu participer à la fête. Ils sont donc restés dehors, mais ils m'ont livré Jésus. Moi, je n'étais pas venu pour ça. Je savais pas ce qu'avait fait Jésus. Je leur ai dit qu'ils pouvaient bien le juger eux-mêmes, comme pour la plupart des délits et des méfaits. Mais ils voulaient lui appliquer la peine de mort. Et donc, ils n'avaient effectivement pas le droit de les juger eux-mêmes. Ça me disait rien de passer du temps à juger des affaires entre juifs, mais que faire ? Il fallait bien s'y résoudre. La journée s'annonçait remplie. J'ai donc commencé à instruire le procès. Quels sont les chefs d'accusation ? Il me faut des chefs d'accusation. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils m'ont répondu tout d'abord que Jésus poussait le peuple à la révolte et les encourageait à ne pas payer l'impôt. Ah, ça me fait un peu sourire, parce que si ça avait été vrai, ce serait certainement pas eux qui seraient venus me le dire. Et puis, il allait falloir qu'ils me donnent des preuves réelles, et si je devais le condamner à mort pour ces motifs. Alors, j'ai écouté leur troisième argument, et là, il s'agissait d'un titre de Christ qu'ils se donnaient, ce qui signifie dans ma langue « quelqu'un qui a reçu l'onction ». Ils m'ont dit aussi qu'il se faisait appeler « roi ». Là, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Peut-être est-ce qu'il veut se donner une certaine légitimité, préparer une prise de pouvoir. Je ne pouvais pas laisser passer cela, même si du coup je me disais que ce qui intéressait les sacrificateurs et les anciens, hein, c'était surtout de se débarrasser d'un importun qui aurait pu prendre un pouvoir qu'ils convoitaient eux-mêmes. Donc vous avez commencé à instruire le procès dans cette direction. Comment veut-vous procéder ? Puisqu'il ne voulait pas rentrer. Bah, tout simplement, j'ai procédé à l'interrogatoire directement, dans le prétoire, puis je suis sorti, rendre mes conclusions aux sacrificateurs, aux anciens, à la foule. C'est intéressant, moi j'étais dehors, vous allez pouvoir me dire comment ça s'est passé donc entre Jésus et vous. Oui, donc ce premier interrogatoire était assez bref. J'ai commencé par interroger Jésus au sujet de cette royauté dont on vient de parler. Je lui ai demandé, es-tu le roi des Juifs ? Sa réponse m'a rendu perplexe. Moi qui pensais avoir à juger une affaire plutôt politique, en fait, l'accusé ne revendiquait pas ce titre. J'ai eu plutôt le sentiment qu'il laissait dire les autres. Il semblait vraiment pas à la recherche d'un titre. Au contraire, il commençait à parler d'une royauté hors du monde, d'un royaume loin d'ici. Ça me semblait pas vraiment menaçant pour l'Empire. Je trouvais rien à redire à ça. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a vraiment rendu perplexe. Il m'a dit qu'il était là pour rendre témoignage à la vérité. On y arrive. Et puis aussi que celui qui est de la vérité écoute sa voix. J'étais perplexe parce qu'il avait l'air de poursuivre un but complètement différent des accusations que j'avais entendues. Et j'avoue que j'étais un peu troublé par sa insistance sur la vérité. Je croyais entendre parler ma femme, qui passe du temps à méditer sur des choses spirituelles. Et bien que moi je m'y attache pas vraiment, j'avais l'impression qu'il s'agissait un peu de la même chose. Il s'agissait de rechercher des choses, de l'au-delà, la vérité plus loin que la réalité. Ça, c'est certains penseurs grecs qui le disaient. La question est importante, en effet. Important, à ce moment, j'étais juste un peu perplexe. Peut-être un peu curieux, c'est tout. Parce qu'enfin, qui peut connaître la vérité? Je n'attendais pas de réponse. Ce que je lui ai dit, d'ailleurs. Dialogue avec un roi, par contre, c'est intéressant. Mais vraiment, se dire roi et ne pas savoir que la vérité n'existe pas. Enfin, puisqu'il se disait roi, j'ai quand même essayé de le sauver, surtout qu'il aurait pu m'être reconnaissant. J'étais dans mon rôle de préfet, je devais donc rendre la justice. Ce personnage me semblait finalement peut-être pas très intéressant, rêveur, philosophe, mais certainement pas un homme à condamner à mort. Alors qu'avez-vous fait ? Alors je suis ressorti vers les responsables juifs et vers la foule. J'ai vu que la foule avait énormément grandi. J'avoue que je me suis dit que c'était un peu louche, qu'ils avaient dû demander à du monde de venir pour faire pression sur moi. Mais ça m'a pas empêché de leur dire ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que je ne trouvais rien de coupable dans ce Jésus. Ah bon, alors donc ça aurait dû clore le procès ? Eh non, car ils ont insisté en reformulant leurs accusations. Je m'étais arrangé pour que Jésus entende ces accusations. Il n'y avait rien de plus que ce que les responsables juifs m'avaient déjà dit. Mais de toute façon, Jésus ne répondait rien. Ça m'étonnait un peu. On aurait dit qu'il se laissait faire, comme un petit animal qui se laisse conduire docilement jusqu'à l'abattoir. J'ai essayé de l'interroger moi-même, mais rien n'y a fait, il répondait plus rien. Pour moi, il n'y avait rien de nouveau. Alors j'ai renouvelé ma sentence. Je ne trouve toujours rien de coupable en cet homme, rien qui soit un motif de condamnation à mort. Ah, donc pour la deuxième fois, le procès aurait pu s'arrêter. Et toujours pas. Les responsables juifs ont recommencé à accuser Jésus. Toujours la même histoire. Ce Jésus soulèverait les peuples dans toute la Judée, passerait son temps à enseigner aux populations à se révolter. Mais ils ont quand même dit quelque chose de nouveau. Ils ont dit que Jésus est un Galiléen. À ce titre, il était sous la juridiction d'Hérode, et Hérode, justement, était à Jérusalem pour la fête. J'ai donc renvoyé Jésus à Hérode avec ses accusateurs. Puis il est revenu. D'après ce que j'ai compris, Jésus n'a rien répondu à Hérode non plus. Il a été maltraité pendant l'interrogatoire, mais Hérode a bien confirmé que lui non plus ne retenait aucun des chefs d'accusation. Donc un troisième non-lieu ? Et toujours un procès qui continue ? Toujours. Cette fois-ci, j'ai vu qu'ils avaient encore plus préparé leur coup et qu'ils avaient super excité la foule. La foule s'est mise à crier dans tous les sens. Elle voulait qu'on relâche un prisonnier. Et selon la coutume que je vous ai expliquée, à ce moment, nous avions fait prisonnier un certain Barabbas, un émeutier avéré qui avait un meurtre à son actif. Et puis je me suis dit, bon, on va les prendre au mot. Puisque je savais bien que c'était par envie que les responsables avaient livré Jésus, je leur ai laissé le choix de relâcher Jésus ou Barabbas. Ah oui, moi j'étais dans la foule et je voyais bien que c'était pas normal, que les gens criaient trop pour que ce soit normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'à un moment, j'ai vu quelqu'un s'approcher de vous à l'entrée du prétoire, à ce moment où tout le monde criait. Vous parlez deux secondes et puis vous avez disparu un moment. Oui, alors ça c'est le premier choc de ma journée. C'est à ce moment-là que la journée a vraiment commencé à basculer pour moi. Ce qui s'est passé, il y avait une pression incroyable dehors, une excitation. J'avais presque l'impression qu'une émeute allait se produire si le peuple n'était pas satisfait. Et le messager en question, en fait, que vous avez vu, venait m'avertir que ma femme m'envoyait un message au sujet de ce Jésus. Je me demande bien comment elle était au courant de ce qui se passait. Mais bon, elle a ses connexions. Je demande donc au messager ce que ma femme avait à dire. Et voici ce qu'elle m'envoyait dire, que je ne devais faire aucun mal à ce Jésus, car c'était un juste, comme elle disait. Et puis elle me disait qu'elle avait eu un songe à cause de lui et que ce songe l'avait beaucoup fait souffrir. Moi, je connais bien ma femme. Si elle me faisait dire ça, c'était vraiment important. Et puis, ça venait un peu confirmer ma perplexité au sujet de cette histoire de royauté qui n'est pas d'ici, de vérité que l'on écoute à travers ce roi. Cela vous a troublé ? Oula ! Je commençais à ne plus pouvoir supporter la pression. J'étais très très mal à l'aise par rapport à Jésus. Je venais de donner le choix à la foule entre Jésus et Barabbas, et j'entendais la foule qui visiblement criait pour réclamer la libération de Barabbas, parce qu'on lui avait demandé, en fait, et la crucifixion de Jésus. J'aurais vraiment donné beaucoup pour être ailleurs. Tout tournait autour de moi. J'étais complètement sous la pression extérieure, j'étais mal à l'aise, j'avais la pression intérieure. Et puis, en fait, je voulais vraiment faire libérer Jésus. La crucifixion, vraiment, pourquoi mettre un homme à mort, un homme non coupable? Alors, j'ai imaginé un stratagème. Je me suis dit que si je maltraitais un peu Jésus, la foule allait se calmer. Donc, je l'ai fait battre de verge et j'ai laissé les soldats le molester. Ah oui, et puis nous, dehors, effectivement, on l'a vu revenir un petit peu plus tard, pas bien en point. Et on vous a entendu le présenter aux sacrificateurs et aux anciens. Oui, je leur ai confirmé à ce moment-là que je ne trouvais toujours aucun crime en lui. Et comme les fois précédentes, ils ont quand même continué à l'accuser, encore et encore. Jamais vu un tel acharnement. Toujours rien de nouveau dans les accusations ? Ah, que si ! Et ça, c'est mon deuxième choc de la journée. Ils parlaient plus du Christ, du Messie, que sais-je, par rapport à la religion, mais ils en parlaient comme du Fils de Dieu. Rendez-vous compte, avec le malaise que j'avais déjà ressenti avec le songe de ma femme, cette fois-ci, j'étais complètement en panique, effrayé. Je commençais donc à me demander si ce procès ne nous dépassait pas tous. Mais on ne peut pas condamner un homme pour de telles paroles. À ce moment, je n'étais plus vraiment préoccupé du procès. Je suis revenu en hâte voir Jésus. Je ne savais pas trop quoi dire, je ne pensais plus qu'une chose. Qui est donc ce Jésus ? Quel rapport entre ce Jésus et le Dieu dont parlent les Juifs ? Je suis allé lui demander « Mais d'où es-tu ? » Il n'a pas répondu. Pourquoi ? Puisqu'il ne me répondait pas sur ce sujet, j'étais complètement perdu. Je lui ai dit « Bon, pourquoi tu ne me réponds pas ? J'ai du pouvoir sur toi. » Je l'ai un peu menacé. Mais lui, en fait, il m'a répondu, mais il a recentré complètement ma question. Il m'a reparlé encore du pouvoir divin et par rapport au pouvoir terrestre. Alors j'ai compris pourquoi il n'avait pas répondu à ma première question. Ma question, c'était « D'où es-tu ? » Et ça, c'est une bonne question, mais c'est une question que l'on doit répondre pour soi-même. Donc je devais répondre à cette question moi-même. Je comprends que ça a dû vous faire un choc. Mais nous, nous étions toujours dehors et la foule continuait à crier. Ah oui, c'était terrible. Tous étaient en train de crier à plein poumon « Crucifie-le !» Que faire contre une telle foule ? Les accusateurs, les responsables juifs n'avaient même plus rien à faire. C'était la foule qui réclamait. C'était la foule qui était en train de réclamer la crucifixion de Jésus. J'ai encore une fois tenté de les ramener à la raison en leur disant que ce Jésus n'avait fait aucun mal. Mais rien n'y faisait. La foule était tellement en furie que je ne pouvais pas résister. Que faire ? Symboliquement, je me suis lavé les mains devant eux pour bien signifier mon désaccord. Puis j'ai relâché Barabbas, j'aurais livré Jésus pour être crucifié. Mais la réalité, c'est que la justice, ce jour-là, a été vaincue par la foule. C'est la foule qui a prononcé la condamnation « Crucifie-le ». Franchement, on peut dire que j'ai été vaincu par la foule et que j'ai, dans ce procès, abandonné ma position officielle. Merci pour cette franchise. Ça n'a pas dû être facile à vivre. Je n'étais pas fier de moi. Donc j'ai voulu quand même laisser une trace de mon désaccord et j'ai fait faire une pancarte que j'ai fait accrocher à la croix de Jésus. Et sur cette pancarte, j'avais fait inscrire le titre de roi des Juifs. Je pensais bien qu'une personne comme Jésus méritait ce titre. Et puis en plus, je l'ai fait écrire en trois langues, en hébreu, en latin et en grec. Pour moi, ça signifiait que ce Jésus était beaucoup plus qu'un roi juif et probablement que Jésus était beaucoup plus qu'un homme. Merci, monsieur le préfet, d'avoir ouvert tant votre cœur. Nous vous remercions pour cette interview. Alors, en conclusion de ce récit, en fait, de ce qui s'est passé le jour de la condamnation de Jésus, Pilate ne l'aurait peut-être pas formulé comme ça, mais il découvrait la personne de Jésus. Probablement, il ne l'avait pas encore rencontré, ou peut-être il en avait un peu entendu parler, comme on dit que Hérode l'avait fait. Mais sa façon d'agir montre qu'il avait perçu que Jésus était plus qu'un simple homme. Le déclic, ça a été apparemment quand les sacrificateurs et les anciens ont parlé de la nature divine. À ce moment, Pilate, qui avait été bien préparé par tous les moments précédents, il a vu que l'enjeu était céleste et non plus terrestre. L'enjeu était éternel. Et finalement, ce qu'il avait étonné en Jésus s'expliquait plutôt bien s'il pensait à Jésus en tant que roi spirituel des Juifs, en tant que fils de Dieu et non pas en simple roi terrestre. Ce déclic, donc, on peut dire qu'il avait répondu à la question de départ de Pilate, puisque Pilate, au début, avait demandé à Jésus « Mais qu'est-ce que la vérité ?» d'un ton un petit peu supérieur. Et il ne pensait pas que personne ne puisse répondre à cette question. Et en fait, à la fin de notre récit, il était en train de comprendre quoi ? De comprendre qu'en voyant Jésus, il avait la vérité en face de lui. La vérité donc n'est pas un concept, la vérité n'est pas une idée philosophique que l'on peut débattre avec toutes les phrases qu'on a vues tout à l'heure, mais la vérité, c'est que la vérité est une personne, la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est une réelle, c'est une phrase qui a tout son sens, la vérité est une personne, Jésus. Dieu est éternel, Dieu ne change pas, Dieu ne peut être autre chose que la vérité, d'accord ? Jésus est Dieu, bien sûr. On peut parler de la parole aussi, puisque souvent, les versets nous disent la parole et la vérité, et on sait aussi que Jésus est la parole. Tout est dans tout, et on peut dire que la vérité est une personne, donc Jésus. Voilà. Alors, pour se donner un petit peu d'air avant le départ, tac, voilà, pour conclure notre thème, on va juste se donner un petit verset pour la route. Donc si on aborde la question de la vérité, c'est parfois lourd à supporter. Ça peut mettre des personnes en face de vraies questions. Pilate, lui, il a subi apparemment une pression énorme. Je l'ai présenté comme ça. J'ai essayé de à travers les évangiles, de voir comment, d'imaginer comment Pilate avait vécu ces choses-là. Comme plus tard les Athéniens, donc n'avaient pas pu supporter aussi quand Paul leur a commencé de parler de résurrection. Parfois, les personnes à qui on va parler ne vont pas supporter ce qu'on va leur dire. C'est des choses qui sont trop impactantes par rapport à leur vie. Mais ce sont de saintes pressions qui exigent une réponse et qui peuvent nous mener sur le chemin de la vérité et la vie éternelle. On ne sait pas si Pilate a eu une deuxième chance de se tourner vers la vérité. On ne sait pas combien d'Athéniens ont eu également une deuxième chance, après avoir refusé d'écouter Paul, de devenir chrétien. Mais notre rôle, c'est de semer les petites graines de vérité sur notre passage. D'accord ? C'est Dieu qui suscitera d'autres personnes pour les arroser et qui lui-même les fera pousser. Donc on va juste prendre un dernier verset pour la route. Hop. Un dernier verset qui se passe de commentaire d'ailleurs. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Alors je dis sans commentaire, mais j'en fais quand même un petit. Le mot connaissance. La connaissance ici, c'est vraiment pas la connaissance intellectuelle, d'accord ? C'est la connaissance de Jésus, c'est-à-dire la connaissance de la vérité à travers Jésus, la connaissance de cette personne qui est la vérité. Donc soyons des disciples fidèles et saints, marchons selon la vérité afin que beaucoup accèdent à la vérité. Et dites à ton voisin, marche selon la vérité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.